voire qu'une partie de la réflexion que j'avais prévue, qui s'intitule « D'où viens-tu ?» Cette phrase, Pilate va l'adresser à Jésus après que celui-ci ait comparu devant lui, accusé ou sous le chef d'inculpation d'avoir déclaré qu'il était le roi des Juifs. Jésus va répondre à Pilate eh bien, que son royaume n'était pas d'ici-bas et que si ça avait été le cas, eh bien, alors il aurait eu quelques défenseurs. Et là, Pilate, eh bien, au chapitre 19, va répondre à Jésus, il va lui dire « Mais d'où viens-tu ? D'où viens-tu ?» Et cette expression va être reprise, eh bien, va être dite à plusieurs hommes, à plusieurs femmes dans la parole de Dieu, et notamment dans l'Ancien Testament, sous plusieurs sens différents. Elle va être dite à Géasi, notamment lorsque celui-ci va revenir, et après va revenir auprès d'Élisée, après être allé chiner quelques récompenses auprès de Naaman, suite à sa guérison spectaculaire. Et Élisée va lui dire « D'où viens-tu ?» Et Géasi va répondre « J'étais nulle part. J'étais nulle part. » Et Élisée de lui répondre « Crois-tu que mon esprit n'était pas présent lorsque Naaman est descendu de son char pour te récompenser ?» D'où viens-tu ? Et une question m'est venue, ça c'était la première partie que j'avais prévue, je ne vais pas m'étaler dessus. Que faisait-on avant la réunion ? Que faisais-tu ? D'où viens-tu ? La désobéissance, ce n'est pas simplement désobéir à un ordre concret, mais parfois c'est désobéir à un sentiment, j'allais dire à une intuition d'en haut. Géasi n'avait pas l'interdiction d'aller demander à Naaman quelque chose, mais il avait vu le maître ne pas le faire. Et parfois, avoir le sentiment que le maître ne ferait pas les choses, et le faire quand même, c'est déjà désobéir. Et deuxièmement, la vraie punition, entre guillemets, de Géasi, la vraie raison, c'est parce qu'il a menti à Naaman, de la même manière que Ananias et Saphira, a menti à Élisée, pardon, de la même manière qu'Ananias et Saphira ont menti à Pierre et ont menti au Saint-Esprit. D'où viens-tu ? Deuxième personne, et on va s'arrêter un peu plus longtemps sur son cas, à qui cette question a été posée, c'est Agar. Agar que l'on trouve dont on trouve le récit dans le livre de la Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 16. Genèse, chapitre 16. Et on va lire à partir du verset 1er. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Sarai la traita si durement que celle-ci, donc Agar, s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Amen. » Sarai a un problème, Abraham a un problème, pourtant ils ont eu une promesse, mais voici que le temps dure, le temps traîne. Et en ce temps-là, le code d'Amourabi permettait à un homme de prendre la servante de sa femme et d'aller vers elle et d'avoir un enfant avec elle. C'était quelque chose qui était permis, c'était quelque chose qui était toléré, et c'est quelque chose que Sarai va demander à son mari. Et à partir de ce moment-là, les ennuis vont commencer pour le couple. Voici que Agar, se voyant enceinte, va peut-être avoir quelques attitudes un petit peu plus dominatrices, va avoir quelques velléités de rébellion, ou tout simplement Sarah, jalouse, va mal interpréter les gestes d'Agar. Peut-être, on ne sait pas, on n'était pas exactement dans la relation. En tout cas, une chose est sûre, c'est que des conflits vont naître. Et j'aime beaucoup cette expression, lorsque Sarah se tourne vers Abraham et lui dit « c'est toi qui es responsable ». J'allais dire « c'est typiquement féminin ». C'est toi qui es responsable. Hein, c'était la petite pique misogyne du soir. Hein, c'est toi qui es responsable. Et Abraham lui dit de lui dire « ben non, c'est ta servante, fais ce que tu veux avec, hein, c'est ton problème et c'est pas le mien. Hein. » Et là, Sarah va prendre la décision de maltraiter Agar au point que celle-ci va être poussée à s'enfuir. Vous savez, lorsque on a une souffrance en nous, bien souvent, ce qui se produit, c'est que les autres autour de nous souffrent. Lorsque en nous, des choses ne sont pas réglées, lorsque dans nos cœurs, il y a une blessure qui saigne, lorsque dans nos cœurs, il y a une partie de nous-mêmes qui, finalement, n'est pas guérie de son passé, alors, eh bien, autour de nous, les hommes et les femmes saignent. Ce sont les enfants, ce sont peut-être nos conjoints, ce sont nos amis, mais d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont à côté de nous souffrent. De la même manière, ceux qui nous font souffrir sont souvent des hommes et des femmes qui souffrent eux-mêmes. C'est une règle, c'est une loi. Et ici, Sarah souffrait de sa stérilité et finalement a certainement reproduit cette souffrance, a certainement véhiculé cette souffrance auprès d'Agar. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'Agar doit fuir. Et ses motifs sont légitimes. Imaginez-vous persécuté, imaginez-vous vivant peut-être une certaine violence, une injustice constante, une humiliation de tous les jours, et Agar en a assez, elle ne peut plus. Et peut-être lui aurions-nous conseillé effectivement de partir. C'est vrai Agar, ton intégrité physique est en jeu, c'est vrai tu es humilié Agar, eh bien pars, quitte. Et effectivement, trouve-toi un autre employeur, même si c'était extrêmement compliqué à l'époque, vas-y, pars. Peut-être lui aurions-nous donné ce conseil. C'est fort possible. Je me mets à la place. Agar serait venu me voir dans mon bureau, assis dans mon fauteuil, et m'aurait raconté tout ce que Sarah lui faisait subir. Je l'aurais certainement plaint, et peut-être lui aurais-je dit « Écoute, Sarah, pars. Écoute, Agar, pars. Trouve-toi notre employeur. » C'est ce qu'elle va faire. Et elle se réfugie dans un désert. C'est souvent le cas lorsque l'on prend la fuite. On se réfugie dans un désert. Parfois dans un désert peuplé, mais on est complètement enfermé sur nous-mêmes. On est complètement reclus dans notre bulle. On est dans notre forteresse. Personne ne nous touche. Personne ne nous approche. On est dans notre désert. C'est ce qu'a fait Mephibosheth. Lorsqu'il a fui Saül, Mephibosheth, c'était le petit-fils du roi apostate Saül, et il a trouvé refuge près de Makir à Lodébar, ce qui signifie sans pâture. Mephibosheth a trouvé refuge dans un lieu sans pâture. Lorsque nous fuyons une difficulté, lorsque nous fuyons un problème, lorsque nous refusons de le régler, la conséquence est souvent que nous nous trouvons dans un désert et que nous nous retrouvons sans pâture. Mon frère, ma sœur, si tu es dans un désert aujourd'hui, si ta vie spirituelle est dans un désert, si tu sens que ta relation avec Dieu est dans un désert, si tu sens que c'est difficile, si tu sens que ta piété est en train de s'assécher, peut-être est-ce parce que tu as fui. Peut-être est-ce parce que finalement tu as refusé de régler une situation. Peut-être est-ce parce que tu as préféré partir plutôt qu'affronter. Que le Seigneur nous aide. Mais dans sa bonté, Dieu va trouver une source à Agar, ou plutôt va mettre à disposition d'Agar une source. J'aime bien cette image, une source dans un désert. On va retrouver Agar auprès d'une source dans le désert. La bonté de Dieu s'exerce à notre égard. Même lorsque c'est dur, même lorsque c'est difficile, même lorsque notre cœur est sec, le Seigneur donnera toujours une source. Un lieu, une personne, un moyen ou une bénédiction à laquelle on pourra se raccrocher et qui nous aidera, qui nous accompagnera. Une source, c'est pas grand-chose. Il faut se mettre à genoux pour boire une source la plupart du temps. Pour ceux qui ont fait quelques marches en montagne,
Les sources, elles sont rarement en haut des rochers. Mais elles sont au pied. Il faut se mettre à genoux pour y boire. Dans nos difficultés, dans tes difficultés, dans le désert que tu traverses aujourd'hui, regarde la source que Dieu a mise. Cette source, ça peut être un lieu, bien sûr l'église, mais ça peut être également ta chambre. Ça peut être une personne. J'aime beaucoup ce passage qu'on trouve dans le second livre de Samuel. Lorsque David est chassé de son palais, est obligé de fuir son palais, parce que Absalom, son fils, s'est révolté contre lui. Et là, on voit le roi David, les vêtements déchirés, en train de gravir le mont des Oliviers. C'est un homme qui est désespéré lorsqu'il arrive au sommet. Et lorsque, tout d'un coup, il lève les yeux, il voit Hushaï, il voit un homme. Et là, le texte nous dit que David va reprendre espoir. Hushaï va vouloir rester avec lui, mais il va lui dire « Non, non, retourne à la cour et tu me seras utile, tu plaideras, ou du moins tu me révéleras les plans eh bien, qu'Absalom, mon fils, pourra avoir. » La vision d'un homme, la présence d'un homme, le contact avec un homme a fortifié le cœur du roi David, qui avait pourtant les vêtements déchirés. Regarde autour de toi. N'y a-t-il pas quelqu'un qui a été placé dans ton désert pour t'encourager, pour te faire du bien? N'y a-t-il pas quelqu'un à la vue duquel, à la vue de laquelle, eh bien ton cœur quelque part reprend courage? Un frère, une sœur, ou tout simplement la vision de la communion fraternelle, la vision de l'Église qui fortifie ton âme, qui fortifie ce que tu es. C'est une source qui est placée dans ton désert. La source, ça peut être un moyen. Toujours ce même David, dans le livre des Psaumes, toujours pourchassé par Absalom, il dit « Mais qu'ils sont nombreux mes ennemis » dira-t-il dans un psaume. Vous imaginez être poursuivi par votre propre fils. Et puis, tout d'un coup, la foi revient, et David de dire « Mais Seigneur, toi tu es toujours là. Je m'endors, je me couche et je me réveille en paix. » Oh ! C'est extraordinaire ça. Pour voir vivre cette paix extraordinaire, pouvoir vivre ces sentiments surnaturels dans le désert de notre vie. Alors que finalement tout est aride autour de nous, eh bien nous on est bien, nous on est calme, nous on est tranquille, nous on est serein. Et on est même capable parfois de chanter les cantiques alors que tout le monde est en train de pleurer. On est capable, pas de sourire, mais de sourire à l'intérieur, d'avoir cette quiétude, cette tranquillité qui nous dépasse complètement, cette paix qui surpasse toute intelligence, dira Paul, et qui vient du fait que l'on a déposé à notre Dieu eh bien, nos fardeaux, nos besoins, qu'on est allé auprès de celui qui nous donne le véritable repos, qui nous donne la tranquillité du cœur, qui nous fait vivre dans cet état et dans cette assurance. Dans le désert, il y a des sources. Dans ton désert, il y a une source. Peut-être la prière comme moyen. Mets-toi à genoux et va boire à cette source. Utilise ce moyen. Ça peut être une bénédiction. Je me souviens à une époque de ma vie un petit peu compliquée, même très compliquée. Vous savez ce qui m'a tenu? C'était un copain de classe qui me tannait sans arrêt pour que je lui parle de Jésus. Chaque fois que j'allais mal, il venait me voir dans ma chambre et me dit « Parle-moi de Jésus. » C'était désespérant. Alors j'étais obligé de lui parler de Jésus. Et je lui parlais de Jésus. Il s'est même converti. C'est fou. Alors que j'étais au 150e dessous et que je vivais certainement l'une des périodes les plus noires de mon existence. C'est comme ça. Une bénédiction qui était là. Le Seigneur, tu me l'as placé à côté de moi, je suis quand même obligé de prier au moins pour lui. J'ai même plus la force de prier pour moi, j'ai même plus envie de prier pour moi. Mais je suis obligé de prier pour lui, tu me l'as placé quand même. J'en suis responsable. Alors, ben voilà, je priais pour lui. L'apôtre Paul dira à propos d'Épaphrodite dans le livre des Philippiens, eh bien, que le Seigneur l'a guéri parce qu'il n'a pas voulu rajouter à l'apôtre Paul tristesse sur tristesse. Peine sur peine. Je trouve ça beau, moi. Et regardez bien votre vie, regardez bien votre désert. Regardez bien vos déserts présents, futurs ou même passés.
Mais le Seigneur n'a jamais rajouté tristesse sur tristesse. Lorsque dans un domaine c'était compliqué, lorsque professionnellement c'était compliqué, dans votre famille ça allait bien. Dans votre couple, il y avait des sujets de joie. Lorsque dans votre couple, dans votre foyer, c'était difficile, alors dans l'église, il y avait des sujets de joie. Lorsque dans l'église, c'était difficile, alors dans votre travail, il y avait des sujets de paix. Mais il n'y a jamais eu tristesse sur tristesse. Jamais. Jamais. Le Seigneur a toujours pourvu. Même l'apôtre Paul, alors qu'il vivait des moments difficiles, dira à Timothée, eh bien, qu'il se souvient de Nésiphore parce qu'il lui a fait beaucoup de bien. Je trouve ça extraordinaire, moi, l'image de cet homme qui peut faire du bien à l'apôtre Paul. Bon, l'apôtre Paul, pour moi, il se faisait du bien tout seul. Hein, il se faisait du bien tout seul. Pourtant, non. Un anonyme, eh bien, lui a fait du bien. Lui a fait du bien. Dans le désert de Paul, il y a eu une source, à un certain moment. Regarde bien ton désert, analyse-le. Tu verras qu'il y a toutes sortes de sources. Toutes sortes de lieux où tu peux aller boire, en attendant eh bien, que la grâce de Dieu vienne. En attendant que l'ordre de Dieu vienne, que la direction de Dieu vienne. Pour Moïse, ça a été un buisson ardent, un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. C'est ce buisson-là qui a donné le signal du départ du désert de Madian à celui qui, 40 ans avant, avait tué un homme. Regarde ton désert. Il y a toutes sortes de sources qui en jaillissent parce que le Seigneur a déjà pourvu. Tu as fui, tu es dans ce désert. Mais il y a des fuites qui sont tout à fait légitimes et il y a des déserts qui sont bien mieux que des prisons dorées parfois. Et puis la voix de l'Éternel se fait entendre. D'ailleurs, on regarde dans le texte que Agar est tout simplement impressionnée et émue par le fait qu'elle est entendue de Dieu, qu'elle est connue de Dieu. Et la voix de l'Éternel se fait attendre. Agar, servante de Sarai. Tu te trompes, je ne suis plus sa servante, j'ai démissionné. Non, non, Dieu connaissait Agar. Agar, servante de Sarai. Anaël, servante de l'Éternel. Adrien, serviteur de l'Éternel. Et on pourrait transposer. Le Seigneur nous connaît comme serviteurs. Nous pouvons fuir ce rôle. Nous pouvons fuir cette fonction parce qu'elle nous a fait souffrir pour une raison ou pour une autre. Il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de Dieu, nous sommes toujours ses serviteurs. Même dans nos déserts, même reclus dans nos déserts, même reclus dans nos petites prisons à nous, Dieu nous connaît toujours de la manière dont il nous a appelés. J'aime bien cette question, parce que les deux sont liés. D'où viens-tu et où vas-tu ? D'où viens-tu et où vas-tu ? Et Agar va répondre à la première. Elle va répondre d'une manière très franche, « Je me suis enfuie chez ma maîtresse Sarai. » Elle ne répond pas à la seconde, parce que finalement, elle n'a pas de perspective. Et une vraie fuite, elle se caractérise par ce phénomène-là, c'est qu'il n'y a aucune perspective. On ne peut pas dire que l'on fuit si on sait à peu près où on va ou à peu près si on a un plan de bataille. La vraie fuite, c'est un vrai coup de tête, bien absolument pas calculé. On se retrouve dans un désert assis auprès d'une source d'eau en disant « Et maintenant, je fais quoi ?» Et maintenant, je fais quoi ? Un petit peu comme ce brave Jonas qui va fuir et auquel la même question va être posée. Hein, ses compagnons de voyage vont lui dire « Mais Jonas, d'où viens-tu ? » ?»« Oh, moi, je sers l'Éternel, vous savez, je viens de partir loin de sa face. »« Oh, mon Dieu, c'est pas possible ! On comprend mieux maintenant !» Jonas a un bon vieux coup de tête. Ninive, non, moi je vais à Tarsis, il y a un bateau, je monte dedans. À partir du moment où on ne sait pas où l'on va, à partir du moment où on ne sait pas ce que l'on fait, où on n'a pas des perspectives divines, on peut dire warning, attention, ça ressemble à une fuite. Bref, passons, je ferme la parenthèse. Et là, Agar. D'accord ? Je me suis enfui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Mais tout le contraire du conseil que moi j'aurais donné. Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Quand on y réfléchit, cette pensée est présente sous la grâce. Regardez les béatitudes. Heureux serez-vous lorsque l'on vous persécutera. L'apôtre Pierre conseillera la diaspora persécutée. Armez-vous de s'armer de la pensée de souffrir. L'apôtre Paul se réjouira de participer aux souffrances de Christ. Jésus lui-même sera l'homme qui acceptera l'humiliation. Maudit celui qui sera pendu au bois. Et il acceptera cette malédiction sur le bois de la croix. Jésus acceptera d'être humilié pour nous. Jésus acceptera de porter nos péchés, de porter nos fautes. Jésus acceptera de mourir entre deux brigands. Jésus acceptera d'être un sujet de moquerie de la part des gardes qui, eh bien, lui poseront cette couronne d'épines sur la tête. Jésus acceptera les moqueries des badauds. Il a sauvé tant d'hommes, tant de femmes. Pourquoi ne descend-il pas de sa croix ? Jésus acceptera l'humiliation. Et il l'acceptera pour nous. Il l'acceptera pour nous. Parce qu'il nous aimait. Et surtout, afin que nous n'ayons jamais à rougir devant Dieu. Mes frères, mes sœurs, parfois, nous aurons le même chemin qu'Agar à faire. Retourner. Reconnaître. Et parfois même, vivre une forme d'humiliation parce que nous sommes serviteurs de l'Éternel. Je me suis trompé. J'accepte de vivre l'injustice. Est-ce que c'est facile à dire ? Ça m'écorche un peu les lèvres, pour être franc. J'accepte de vivre l'injustice. J'accepte. Retourne et humilie-toi. Agar, tu es servante. Mais nous ne souffrons jamais gratuitement. Et attaché à ce commandement, Agar a une promesse. Tu enfanteras un fils et il sera une grande nation. Alors une nation un peu particulière, vous pourrez lire la suite tout à l'heure. Nous ne souffrons jamais gratuitement pour notre Dieu. Nous ne souffrons jamais gratuitement. C'est-à-dire que il connaît nos souffrances. Et j'aime à vous dire que chacune de nos souffrances, c'est un parfum d'adoration qui monte. C'est l'image de l'Holocauste. Chacune des souffrances que nous acceptons de vivre, des injustices que nous acceptons de vivre pour Dieu, finalement, c'est un acte d'adoration qui vaut bien mieux que bien des paroles prononcées avec nos lèvres. Seigneur, je suis sur l'autel. Je sais qu'aujourd'hui au lycée, on risque de se moquer de moi à cause de ma foi. D'accord, mais j'y vais quand même. Et je tiendrai bon, Seigneur, parce que tu as souffert sur la croix. Je sais qu'au travail, je risque d'être mis à part. Ok, mais j'accepte de le faire quand même. C'est un sacrifice que je fais. Hein. J'accepte eh bien, de participer en quelque sorte à tes souffrances, à participer à ton œuvre, parce que toi, tu as tout donné pour moi. Je l'accepte. Je l'accepte. Sachant que tu t'en serviras, Seigneur. Ou pas, peu importe. Mais je sais que ce que je t'offre sera profondément utile. En conclusion, Agar est revenu et bien lui en a pris, même s'il y aura encore quelques épisodes plutôt houleux. Une simple question. Où es-tu et où vas-tu ? Où es-tu et où vas-tu ? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Jonas avait oublié qu'il était prophète de l'Éternel. Agar avait oublié qu'elle était servante de l'Éternel. Avons-nous oublié que nous sommes enfants de Dieu? Il y aurait tout un sujet à développer. C'était la troisième partie, je ne la développerai pas. Mais que le Seigneur nous aide. Regarde dans ton désert, premièrement. Il y a toutes sortes de sources. Regarde, il y en a plein autour de toi. Il y a plein de sources. Deuxièmement, écoute la voix de l'Éternel et accepte parfois de vivre un petit peu l'humiliation. Après tout, ça nous fait ressembler à Jésus, paraît-il. Ça vaut bien la peine, non? Ça vaut bien la peine. Que le Seigneur nous aide, nous accompagne et nous fasse grâce. Amen.